Notre récit d'évangile ce dimanche fait partie des textes qui peuvent faire le miel d'un interprète, parce que ce récit est empli d'astuces diverses. Nous en relèverons quelques-unes avant de nous attarder sur une piste à explorer plus profondément, à savoir la véritable réponse à la question de l'assombrissement et du départ triste de celui qui s'était d'abord jeté plein d'entrain aux genoux de Jésus. Oui, je choisis d'abord d'égrener quelques pépites de ce récit, ce qui est contraire au code sacré du prédicateur. Ce code nous dit de choisir une seule idée et de la sillonner tel un animal de labour, mais il se trouve qu'un texte est toujours un feu d'artifice en formation, et quand vous assistez à un feu d'artifice, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise « Bon, là, tu ne vas regarder que le bleu. » Ou « Tu ne vas t'intéresser qu'à la forme de champignon uniquement. » Non. Vous repartez de là et vous avez une sensation globale et peut-être une sensation intègre, qui sait. Et dès lors, peut-être un jour, quand vous rencontrerez de nouveau ce récit, vous pourrez l'explorer à votre guise, en choisissant une de ses couleurs et de ses formes, au-delà donc du trajet d'un prédicateur qui aurait pu prétendre avoir totalement consumé ou digéré ce récit à votre place. Je prends donc le risque que votre esprit vagabonde et que vous ne prêtiez plus aucune attention à la seconde partie de cette prédication. Déjà, ce récit a deux parallèles dans les évangiles selon Matthieu et de Luc. Sans bien entendu tomber dans l'analyse comparée, il est quand même utile de remarquer que l'homme riche, c'est très difficile d'entrer dans ce temple, je crois qu'il faudra veiller à cela un jour quand même. C'est un peu contraire au principe de base. Ce récit a deux parallèles, mais je ne vais pas faire d'analyse comparée, mais il est quand même utile de remarquer que l'homme riche n'est désigné comme jeune que dans Matthieu et dans Luc, qu'il est d'emblée désigné comme un chef. Dans Marc, notre évangile du jour, cet homme qu'encore des intertitres de vos Bibles désignent comme le jeune homme riche, et c'est de cette façon que ce texte est ultra connu, du moins le titre, et bien dans notre évangile de Marc, cet homme évoque sa jeunesse qui est donc possiblement révolue. Et bien évidemment, cette évocation de cette jeunesse en toute cohérence n'est pas présente dans Matthieu, où cet homme est jeune, mais se retrouve dans Luc, où cet homme, ayant pris du galon, est en chef, a de fortes chances d'être âgé, car qui va respecter un chef qui n'est pas âgé? Un passage dans notre récit qui plaît beaucoup aux commentateurs de Marc, c'est quand Jésus, au verset 21, regarde. On pourrait traduire par « considère cet homme et l'aime ». Ce sentiment-là, Matthieu et Luc ont préféré ne pas l'évoquer. Et je dirais à tort. À tort, car dans Marc, il y a une création d'un message subliminal qui donc, évidemment, ne saute pas aux yeux. Et ce subliminal a pour but d'orienter, de manipuler le lecteur. Jésus, dans notre récit, regarde, considère trois fois. La première fois, il regarde notre homme, là, et il l'aime. Très bien. La deuxième fois, Jésus regarde autour de lui, nous dit le texte, et Rien de spécial. Et la troisième fois, avec exactement le même terme que la première fois, il regarde les disciples et rien de spécial. Cela voudrait-il dire qu'il n'aime pas les gens autour de lui et qu'il n'aime pas ses disciples ? Non, ce serait quand même un peu facile ou outré de conclure de cette façon, mais il est bien plus intéressant, en mon sens, de voir que la seule association du regard et de l'amour dans notre récit concerne cet homme, ce qui introduit un effet de focalisation sur celui-ci, comme si celui-ci était vraiment distingué par rapport aux autres, par rapport à la foule, par rapport aux disciples, et c'est pour cela que le lecteur, et peut-être l'auditeur, qui est, avouons-le, comme vous et moi, c'est-à-dire forcément en manque de considération et d'amour, peut, à ce moment-là du récit, prendre place dans ce personnage, comme si Jésus, à ce moment-là, le regardait lui, le considérait et l'aimait lui. Qui a dit que l'évangile de Marc était plus rustaud que, par exemple, Luc qui serait plus subtil ou Jean qui serait plus spirituel? De telles idées préconçues sont de parfaites impasses pour un interprète. En revanche, c'est dans les trois évangiles que nous voyons cet homme immédiatement touché par Jésus après que cet homme donc l'a appelé « bon maître ».
Ou qu'il lui ait demandé ce qui était bon.
Jésus répond, vous l'avez entendu, et à la lecture ça vous a peut-être choqué, un jour peut-être, il répond « personne n'est bon si ce n'est Dieu seul ». Question vite évacuée, Jésus ne serait-il donc pas bon ? Je pense que ce n'est pas une problématique de ce récit. Personne n'est bon, comme ne l'est pas non plus le reste de l'humanité souffrante et déchéante, dont cet homme, dont toi là qui viens à mes genoux, dont cet homme qui veut justement être bon, ou mieux, qui veut avoir bon, dans le sens « j'ai bon là ». Il est temps maintenant d'annoncer ma seconde partie, et c'est fait. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Telle est la question de notre personnage du jour, un personnage dont je vous rappelle qu'il est aimable, selon le texte, comme nous le sommes aussi, aimable. Du moins, je préciserai que nous sommes dans la possibilité d'être aimés. Même si nous ne sommes pas aimables à nos yeux ou aux yeux de tout le monde. Le mot « aimable », en fait, y avez-vous déjà réfléchi, n'est pas, comme on le croit souvent, forcément lié à notre qualité préalable. On va dire que c'est celui qui aime qui rend aimable. Jésus, à celui qui, sans être jeune, évidemment, est tout de même assez naïf, tente un piège qui n'en a pas l'air. Il cite, Jésus, quelques commandements du Décalogue concernant l'adultère, le meurtre, le vol, le faux témoignage et l'honorabilité des parents. Plus un autre commandement qui vient, je ne sais d'où, mais qui résume bien l'ensemble précédent, « Tu ne feras tort à personne », qu'on pourrait mieux traduire par « Tu ne dépouilleras pas les gens comme un rapace ». Bon, là, comme un rapace, c'est moi qui ajoute. Un commandement supplémentaire qui ne figure pas dans les parallèles de ce récit parce que les deux autres se sont dit « C'est quoi ?» Voilà. Donc, il y en a un qui l'a remplacé par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Correction, correction. À cet ensemble de citations, l'homme répond, vous l'avez entendu, qu'il a gardé tout ça dans sa jeunesse. Où est donc le piège ? Eh bien, il est tout simplement dans le fait que Jésus ne choisit dans le Décalogue que les paroles qui concernent le respect de l'humain et qu'il n'inclut pas dans sa liste les autres commandements qui concernent le respect de Dieu, ne pas avoir d'autres dieux, ne pas en faire de représentation, ne pas se prosterner devant elle, ne pas évoquer son nom en vain et sanctifier le jour du sabbat. Ici, l'interprète affranchi, j'aime bien l'appeler comme ça, celui qui essaie de se débrouiller de toutes les idées reçues qui le poursuivent dès qu'un texte apparaît. Je vais appeler ça donc l'interprète affranchi. Des idées reçues. Voit, peut voir, en creux, et même si ce n'est pas explicite, un manque. Le manque d'un rapport avec Dieu, de la considération de sa présence, de la nécessité de le respecter, par exemple, au hasard, en se reposant régulièrement. L'interprète affranchi voit ici, si c'est possible, justement, le vide de Dieu. Que tout le vouloir bien faire de cet homme scrupuleux ne peut compenser, un vide qu'il a sans doute cru combler par l'accumulation de ses richesses, dont non seulement il voudra, mais dont il ne pourrait pas se séparer, car les richesses de cet homme remplacent pour lui illusoirement l'absence, tout simplement, d'une relation avec Dieu. Et cette relation-là se situe bien au-delà des contingences du faire ou de l'accomplissement des commandements qui ne servent à rien pour hériter la vie éternelle. Car celle-ci ne s'hérite pas en conséquence de quoi que ce soit. Elle se reçoit justement quand on reçoit Dieu, qui est le grand absent des commandements proposés par Jésus. Alors évidemment, Jésus ensuite va provoquer notre homme et va le pousser à se débarrasser de tous ses biens, ne serait-ce que pour, dans cette provocation-là, qu'il ressente non seulement peut-être un refoulement de Dieu, ou ce manque, ou ce vide, mais aussi peut-être qu'il puisse bénéficier, à ce moment-là de choc, d'un appel d'air. Mais non, il s'en va profondément triste. C'est à ce moment-là que le lecteur, qui s'était incarné et qui s'est senti aimé dans ce personnage, qui a été regardé, qui a été considéré, peut se demander s'il le laisse partir, en fait. S'il se laisse lui-même ainsi partir, sans savoir peut-être que c'est lui-même qui s'en retourne à son impasse, ou si cet homme, là, de notre texte, du jour, il le retient, s'il ne le laisse pas partir parce qu'il comprend que son manque était plus important que ce qu'il croyait dans l'abord de ce récit qui va beaucoup plus loin finalement qu'une simple dénonciation en soi des richesses. Ici en plus, connotées comme des richesses qui de fait dépouillent les autres, d'où l'ajout peut-être de ce commandement venu de je ne sais où, qui interroge la réelle capacité de cet homme en fait de bien à respecter l'humain même sans être adultère, sans dérober, sans commettre de meurtre, et bien entendu en honorant son père et sa mère. Jésus, dans Marc, dit qu'il est difficile pour ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Bon, ce mot « difficile », sous cette forme, est uniquement employé dans Marc, là. Et on remarque qu'il rejoint en français le terme « difficile » quand celui-ci décrit quelqu'un qui est difficile en matière de nourriture. Le mot de nourriture est dans le terme grec. Cela suggère que la véritable difficulté n'est pas directement le fait d'avoir des biens, mais qu'à cause de ces biens, on devient difficile soi-même pour la nourriture et ici l'évangile libérateur qu'on nous propose. La véritable difficulté, ce ne sont pas les biens, c'est soi-même, c'est lui-même, c'est moi-même. Parce que Dieu, l'honorer, ça ne m'intéresse pas. Je laisse ça aux faibles et aux naïfs, car je suis devenu difficile. Cette prédication est terminée. Je n'ai pas évoqué la métaphore du riche et du trou et de l'aiguille et du chameau. Mais beaucoup de gens, et vous allez voir sur Internet, allez-y, se sont passionnés pour la décrypter, perdant ainsi beaucoup de temps alors qu'ils auraient pu regarder là où il fallait et ne pas risquer de repartir de ce récit assombri et triste. Amen.